Voilà une balle de LBD qui sort du fusil à plus de 300 km/h. Ces balles sont tellement puissantes qu'elles partent droit sur 40 mètres. Et elles sont dures comme ça. Alors quand vous recevez ça à 12,50 m comme moi je l'ai reçu dans mon crâne, je me demande comment je suis encore en vie.
Violence policière. Pour le gouvernement, l'expression est taboue. Et la prononcer entraîne l'habituelle réplique sur la violence inédite des manifestations de ces deux dernières années. Loi Travail et plus récemment Gilets jaunes. Pourtant, selon un des comptes de l'agence France Presse, 24 personnes ont perdu l'usage d'un œil l'année dernière en raison de l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les désormais célèbres et très controversés LBD, par des membres des forces de l'ordre.
Il faut savoir qu'une erreur infime de même pas un degré de visée peut avoir une conséquence de 25 cm de différence sur l'impact ciblé.
Donc c'est-à-dire que vous pouvez viser le torse, mais finalement arriver dans la tête.
Voilà.
Hors manifestation, l'intervention même des forces de l'ordre est mise en cause dans la mort de deux personnes, Steve Maya Canisso à Nantes et Cédric Chouvia à Paris. L'été dernier, un sondage de l'IFOP révélait que 50% des Français seulement faisaient encore confiance à la police. On est loin de la gigantesque manifestation du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, quand policiers et manifestants fraternisaient devant les caméras du monde entier.
On assiste à des scènes étonnantes, comme cet homme qui embrasse un CRS.
Depuis, sont passés de longs mois de mobilisation intense pour des policiers sur le front de la vigilance antiterroriste et depuis novembre 2018, de l'encadrement des manifestations de gilets jaunes.
Non, on n'est pas à l'abri de perdre notre sang-froid, de nous mettre une claque, un coup de poing ou n'importe quoi et on perd notre travail dans ces cas-là.
Bref, si le ministre de l'Intérieur réfute l'appellation de violence policière, il va tout de même présenter, dans les prochaines semaines, son schéma national du maintien de l'ordre, comme s'il y avait bel et bien un avant et un après manifestation des Gilets jaunes. Un schéma très attendu où il sera question de doctrine et de technique de maintien de l'ordre, mais probablement pas de la mise au rancard du LBD. C'est précisément une victime de tir de LBD que Géraldine Allot est partie rencontrer à Bazas, à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Nous y voilà. Je crois que c'est le portail blanc, là. C'est une maison en chantier, un peu comme si tout avait été suspendu.
Ah oui, j'ai bien vu.
Bonjour. Olivier Béziade, vous avez 48 ans, vous avez 3 enfants en bas âge. Vous êtes, ou plutôt vous étiez, sapeur-pompier volontaire et agent de maîtrise en sécurité incendie. Vous avez été gravement blessé par un tir de LBD, un lanceur de balles de défense, le 12 janvier 2019. Alors que vous participiez à votre première manifestation de gilets jaunes à Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Bien, avec ma femme, on avait prévu d'aller sur Bordeaux faire des courses. Et par curiosité, on a dit bien, on va aller voir cette manif. Puisque déjà, j'étais entièrement d'accord avec l'esprit du départ des gilets jaunes. Comme quoi, bien, à la fin du mois, on est toujours ric-rac. Donc on en a profité pour faire cette manifestation, la première, avec ma femme.
Il y a une manifestation donc, à laquelle vous prenez part avec votre épouse. La foule est compacte, mais d'après les vidéos publiées par le journal Le Monde, la foule est plutôt pacifique. Il y a une personne qui jette un projectile, mais ce n'est pas vous. Et puis à un moment donné, il y a une charge de police et tout le monde s'enfuit. Et vous, vous êtes dos à la police et un policier vous tire au LBD dans la tête, alors que vous êtes dos à lui.
Tout à fait. On s'est retrouvés sur la place au niveau du miroir d'eau. C'était festif. On a discuté avec beaucoup de personnes, comme tout le monde était venu, pour refaire le monde. Il n'y avait pas d'animosité. Il y avait des CRS à droite, à gauche. On a fait tout le cortège. au milieu de la police. On se saluait. Et arrivé en haut de la rue Sainte-Catherine, il commençait à avoir des gaz lacrymogènes. Donc tout le monde se demandait pourquoi. Et tout d'un coup, j'ai entendu crier des gens « Courez, courez, ils chargent !» Donc bien, moi, j'ai voulu prendre une petite rue à droite, la rue Dorade, pour me sortir de là. Je ne comprenais même pas pourquoi ils nous couraient dessus, quoi. Tout d'un coup, je me suis retourné sur ma droite. Et là, j'ai vu une personne me viser. Et bien là, j'ai reçu un grand coup à côté droit de ma tête. Je voyais le sol se rapprocher de moi. J'ai voulu lui mettre mes mains pour éviter de tomber. Tout mon cœur ne réagissait plus. Je suis tombé la face sur le sol. Quand j'ai réussi à ouvrir les yeux, j'avais une grosse tache de sang et que ça n'arrêtait pas de couler.
Alors que vous êtes à terre, en sang, un autre policier jette une grenade sur votre gauche.
Cette grenade, c'était une grenade de défense. Elle m'a explosé à 2 mètres devant moi. J'ai été coupé là, sur le nez, sur la bouche, bon, un peu partout, des éclats. Et après, c'est le noir total.
C'est un policier de la brigade anticriminalité de Bordeaux qui a tiré au LBD sur Olivier Béziade. Est-ce qu'auparavant vous aviez eu une attitude hostile envers les forces de l'ordre? Est-ce que vous leur aviez jeté quelque chose au visage? Est-ce que vous les aviez insultés? Ce qui ne justifierait pas le tir de LBD en plein visage, mais qui pourrait expliquer pour qu'on vous vise, vous?
Non. Alors, ça fait 22 ans que je suis pompier volontaire et 22 ans que je travaille avec les forces de l'ordre de chez nous, la gendarmerie. J'ai aucune animosité contre les forces de l'ordre. Ils font leur travail comme moi, je fais mon travail de pompier, point. Je vois pas pourquoi j'irais les caillasser ou les insulter, comme il y a eu des insultes et des caillassages envers eux. Mais moi, de ma part, même au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien contre les forces de l'ordre.
Vous avez été plongé dans le coma pendant 4 jours. Vous êtes resté 3 semaines à l'hôpital. Vous avez eu 90 jours d'ITT. Hémorragie cérébrale, multiples fractures. Après donc ce tir de LBD en plein visage. Qu'est-ce que vous avez gardé comme séquelles aujourd'hui, un an après?
Au jour d'aujourd'hui, je fais des crises d'épilepsie à répétition. Suite à ça, je perds de la mémoire. Je me souviens plus la semaine avant qu'est-ce que j'ai fait. Je suis en incapacité de conduire au plus loin que ma ville. Parce que ça se déclenche comme ça. Je suis interdit de travailler. On est en train de monter un dossier MDPH. Ça veut dire que je vais être reconnu ouvrier handicapé pour essayer de travailler un minimum. Je ne peux pas rester attentif plus de 5 minutes sur quelque chose.
En janvier, le policier auteur du tir de LBD a été mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est ce que vous attendiez?
Oui. Moi, ce que j'attends encore plus, c'est que la hiérarchie aussi soit reconnue coupable. Le chef qui a donné l'ordre de faire le bon, s'il avait fait son métier, il aurait bien vu qu'il n'y avait aucune menace, que tout le monde était dispersé. Donc ses collègues ne m'auraient pas tiré dessus.
On ne sent aucune colère chez vous, alors que vous avez été blessé gravement. Ça fait un an que vous ne pouvez pas travailler, vous avez 3 enfants en bas âge. Derrière nous, c'est le chantier de votre terrasse qui est complètement à l'arrêt parce que vous ne pouvez pas reprendre vos travaux, c'est trop compliqué. On ne sent pas de colère?
Non, je suis passé par cette phase de colère, de vengeance, de dépression. Je ne vais pas vous cacher que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ma femme, on est séparés depuis. Ça a été très dur pour elle, voilà, tout ce qui s'est passé. Mais non, je ne suis pas en colère parce que je fais confiance à la justice et j'espère que je ne me tromperai pas, que la justice va faire son travail, comme a fait l'IGPN. Ils ont bien vu que je n'étais pas une menace et que le policier et toute la hiérarchie ont fait des choses qu'il ne fallait pas.
Nous sommes à Bordeaux et nous avons rendez-vous avec Romain Foucard. C'est l'avocat d'Olivier Béziade. Dans cette affaire, vous êtes aidé par les images, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos amateurs. Vous êtes aussi aidé par une caméra de vidéosurveillance qui était dans la rue où a eu lieu le tir de LBD et qui a tout filmé. Est-ce que, selon vous, s'il n'y avait pas eu ces images et notamment ce travail de reconstitution du journal Le Monde, il y aurait eu une mise en examen de ce policier ?
Je vais vous le dire très franchement, s'il n'y avait pas eu d'images, très sincèrement, je pense qu'il n'y aurait pas eu de dossier. Et ça rejoint les dizaines et les dizaines d'autres dossiers dans lesquels, malheureusement, il y a des classements sans suite parce qu'on ne dispose peut-être d'aucune vidéo, on n'arrive pas à identifier le policier ou on estime qu'il a fait un usage proportionné de son arme. Donc effectivement, dans ce dossier, Monsieur Béziade a eu la chance, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, il a vécu un événement terrible ce jour-là, mais il a eu la chance d'avoir une personne qui avait son téléphone ce jour-là, qui a pris cette vidéo. Et effectivement, cette vidéo, elle a été la base de départ de l'enquête.
Donc là, il y a un policier qui est poursuivi. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ?
J'ai la faiblesse de penser que oui. Parce que dans certains cas, en dépit du fait que le procureur, le parquet classe sans suite en estimant qu'il y a un usage proportionné de cette arme, manifestement, les formations sont insuffisantes. Les policiers font très souvent usage de ces armes dans des moments et dans des circonstances qui ne le nécessitent pas. C'est la raison pour laquelle je pense que de nombreux classements sans suite, effectivement, n'auraient jamais dû avoir lieu, alors que c'est l'arbre qui cache la forêt en termes de statistiques, je peux pas vous le dire. Peut-être qu'il parlera pour tous les autres qui n'ont pas pu avoir justice.
Les victimes réclament réparation et les policiers rechignent à s'exprimer. Leurs organisations syndicales se retranchent derrière un discours assez convenu et dénoncent la violence des manifestants et l'état de fatigue de fonctionnaires sur la brèche depuis maintenant 5 ans. Les policiers sont tenus à un devoir de réserve. C'est pourquoi l'identité et la voix de ceux qui ont accepté, après un long travail d'approche, de se confier à Géraldine Allot, ont été modifiées.
Interception sur France Inter.
Arnaud, vous êtes brigadier dans une BAC en région parisienne, vous avez une trentaine d'années. Et lors des manifestations des Gilets jaunes, vous avez été appelé en renfort pour faire du maintien de l'ordre dans le sud de la France. Comment ça s'est passé, ces manifestations pour vous ?
Concrètement, il y avait un cortège. Dans ce cortège, il y avait des manifestants un peu plus virulents qui, eux, sortaient, cassaient dès qu'ils pouvaient casser des cabinets d'assurance, des banques, certains commerces. Donc si certains commerçants avaient oublié de ranger des chaises, des tables, ils les prenaient, ils les jetaient un peu partout. Le souci qu'il y avait, c'était qu'en fait, souvent ça tombait le samedi et il y avait des gens qui faisaient les magasins comme n'importe qui. Donc on se retrouvait avec des manifestants virulents et des gens qui avaient rien à voir avec la manifestation, qui étaient là avec leurs enfants. Donc il fallait faire un tri dans tout ça et on pouvait pas faire n'importe quoi. C'était violent, donc on essuyait des tirs de pavés, de billes en acier lancées avec des lance-pierres. Il y a des collègues qui ont vécu, moi personnellement j'ai pas vécu, mais des tirs d'acide. C'était violent, de toute façon c'était violent, on savait où on allait quand même. Hein.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui mais les BAC tirent trop au LBD, ils ne sont pas formés à ça ?
Moi, je trouve pas. Je pense que quand on tire, c'est qu'on doit tirer. On fait un peu des frappes chirurgicales, hein. C'est-à-dire que en général, quand on interpelle, c'est ciblé et c'est des gens qui ont vraiment fait quelque chose. Il y a un coup, hein, sur un lanceur 40, donc c'est pas des rafales qu'on tire. Hein. Donc si on a qu'un coup, c'est qu'on tire vraiment sur quelqu'un qui a fait quelque chose. En général, je vois pas trop l'intérêt de faire autrement, quoi.
Est-ce que c'est précis comme arme, le LBD ?
J'ai toujours trouvé que c'était précis. Maintenant. Il faut se mettre aussi dans le contexte d'une manifestation où il y a des cris, il y a des jets de projectiles qui arrivent de toutes parts et on a une cible mouvante. Donc on peut comprendre que des fois la balle elle aille pas où est-ce qu'on décide qu'elle aille. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir des accidents, je pense. Et c'est comme ça certainement qu'il y en a eu. C'est la hantise de tous les policiers.
Le nombre de blessés par LBD, il interpelle, il y en a eu beaucoup pendant les manifestations.
Je pense qu'il y a eu plus de blessés dans la police que de manifestants blessés par le LBD, je pense.
Sauf qu'il n'y a pas eu des policiers avec des yeux en moins.
C'était pas au bon endroit, je pense. C'est aussi aux manifestants d'être prudents, de ne pas se mélanger avec des casseurs. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, bah, qui ne se mélangent pas avec n'importe qui, quoi. Ça peut être dangereux.
Mais dans ce reportage, on a entendu un pompier, Olivier Béziade, qui a été blessé par un tir de LBD alors qu'il était de dos.
Je veux bien croire que des fois, il y a des erreurs de notre part. Je suis plutôt du principe de laisser faire la justice.
Mais ça ne vous interpelle pas, vous, toutes ces images de manifestants blessés? Vous ne vous dites pas, on a un problème de violence chez nous?
Il y a des violences, certes. Mais comme je dis toujours, ça n'arrive pas gratuitement, quoi. C'est jamais gratuit chez nous. Alors que, par contre, les violences envers les policiers, souvent, sont gratuites.
Mais encore une fois, il y a des manifestants qui ont été blessés, et c'est monsieur, madame, tout le monde.
Des fois, peut-être que des policiers sont pas professionnels jusqu'au bout. Peut-être. On n'est pas là pour punir les gens, c'est pas notre rôle. Je suis d'accord. C'est le rôle de la justice de les punir. Ceci dit, on reste des hommes, et je mets au défi quiconque de réagir bien quand on se fait cracher dessus du sang au visage et que la personne en face dit qu'elle a le sida. On est des policiers, mais on n'est pas des machines, on est des hommes. Et c'est ce qui fait que bah, tant qu'il y aura des hommes à faire notre travail, il y aura forcément des erreurs. On n'est pas à l'abri de perdre notre sang-froid, de mettre une claque, un coup de poing ou n'importe quoi. Et on perd notre travail dans ces cas-là. On comprenait le mouvement de départ, hein. Ça part de personnes qui travaillent tous les jours et ces gens-là, ils n'arrivent pas à finir la fin du mois. Donc on s'identifie. Tout le monde n'habite pas à Paris ou en petite couronne avec des transports en commun au top du top. Il y a des gens bah, comme moi hein, qui ont besoin de leur voiture.
Donc vous étiez solidaire du mouvement des Gilets jaunes au départ et c'est plus le cas?
Non, parce que là, je pense qu'à un moment donné, il y a eu aussi des concessions de fait par le gouvernement. Je pense que la majeure partie des gens ont lâché après ça. Et là, maintenant, c'est des gens, on pourra leur donner la lune, ils en voudront encore pas. Ils sont là parce que bah, ça leur fait la sortie du samedi, quoi.
Allez, va te coucher!
C'est comme ça que je le vois, en tout cas.
En France, ce sont les CRS et les gendarmes mobiles qui sont spécialisés dans le maintien de l'ordre. Ils sont en première ligne dans les manifestations.
Le maintien de l'ordre, c'est une spécialité, c'est un vrai métier, on a une formation, c'est long, on répète les choses, pas assez souvent malheureusement, mais on a quand même une certaine expérience du maintien de l'ordre que d'autres corps dans la police n'ont pas.
Mathieu, 45 ans, est CRS depuis 20 ans. Sa compagnie a été déployée lors des plus grosses manifestations de Gilets jaunes et contre la réforme des retraites.
Il faut savoir qu'à l'arrivée du 1er décembre 2018, le ministère de l'Intérieur a eu tellement peur de l'événement, ils ont appelé tous les effectifs de police disponibles. Donc forcément, tout le monde n'est pas formé au maintien de l'ordre. On n'intervient pas comme ça. Il y a des ordres à respecter. Donc forcément, ça peut amener à employer un effectif du commissariat, par exemple, qui n'est pas fait pour le maintien de l'ordre, à agir outre le système qui nous a inculqué. On a été témoin d'images où certains effectifs de police ont utilisé ce fameux lanceur de balles de défense dans des conditions qui peuvent être discutables.
Vous pensez à quoi notamment ?
Cette fameuse personne sur les champs qui avait les bras écartés, qui était immobile, elle a reçu cet impact de LBD dans l'estomac. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Ce fameux pompier à Bordeaux qui a été victime d'un tir de LBD par derrière. Malheureusement, je pense qu'il y a des situations où certains collègues ont été dépassés par l'événement, ce qui est humain, hein, stress, angoisse, énervement, colère, le fait de ramasser des projectiles pendant plusieurs heures, ça aussi, les gens ne se rendent pas compte, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut un certain moral et être capable d'encaisser, c'est pas facile.
Vous en parlez entre vous, entre CRS ?
Oui, on en parle. On en parle parce qu'on n'a pas envie forcément qu'un collègue pète les plombs et utilise cette arme pour se faire plaisir ou viser vraiment quelqu'un en pleine tête volontairement pour blesser.
C'est quoi la formation au LBD ? Elle consiste en quoi ?
Donc on a une formation théorique qui comprend 4 heures pendant lesquelles nous étudions l'arme, ses caractéristiques techniques, le cadre légal d'emploi de cette arme. Donc on la prend en main, on apprend un petit peu à la manier à vide, on prend connaissance des cartouches, des distances de tir, les conséquences qui peuvent être fâcheuses à cette mauvaise utilisation. Et par ailleurs, on a 2 heures de pratique sur une cible immobile et non pas mobile. toute cette formation est un petit peu comme les autres. On s'entraîne avec les moyens que l'on a, pas forcément assez poussés. Ça nous permet quand même de nous entraîner, de voir ce que ça peut provoquer. On s'entraîne sur une cible en bois, en carton ou en papier. On sent qu'il y a une certaine puissance dans ces munitions, mais on ne sait pas réellement ce que ça peut provoquer sur un être humain.
Vous la trouvez assez précise, cette arme, le LBD, le lanceur de balles de défense ?
Oui. Oui, pour l'avoir utilisée plusieurs fois, c'est une arme très précise. Cette arme est dotée d'une visée électronique, qui dit point visé, point touché. On sait qu'une certaine distance minimum, on n'a pas le droit de tirer parce que c'est létal. On peut impacter cette personne à partir du haut du torse, jusque dans les jambes, à condition de ne pas viser les zones rouges, ce qui est la tête et des parties génitales. Après, c'est une arme qui est très précise, à condition que cette personne ne soit pas forcément très mobile. Il faut savoir qu'une erreur infime de même pas un degré de visée peut avoir une conséquence de 25 cm de différence sur l'impact ciblé.
Donc c'est-à-dire que vous pouvez viser le torse, mais finalement arriver dans la tête.
Voilà.
Vous ne pensez pas qu'il faut la retirer de l'armement des policiers français ?
Non, parce qu'aujourd'hui, si on nous retire aujourd'hui cette arme, il nous reste notre bâton de défense, les grenades de désencerclement, qui sont très efficaces aussi. Mais à part ça, il nous resterait notre arme à feu, qui serait utilisée dans certains cas. Ce serait quand même dommageable d'en arriver là.
C'est quel étage ? 10e, ok, merci.
La porte est ouverte.
Je m'appelle Mathieu Zagrodzki et je suis chercheur associé au CESDIP. C'est le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. C'est un laboratoire spécialisé dans les questions de sécurité et de justice. Pour ma part, je me spécialise dans la sociologie de la police et les politiques publiques de sécurité.
Est-ce que la police française a un problème de violence ?
Alors, c'est une question complexe et vaste. Disons que la police française a un problème de relation avec la population, en tout cas avec une partie de la population, et a un problème pour désamorcer les conflits. Cette question-là, qui est longtemps restée cantonnée aux quartiers dits sensibles, a commencé à porter sur la gestion des supporters, parce qu'on n'en parle pas énormément, mais il y a eu également des supporters blessés par le LBD 40 et qui ont perdu l'usage d'un œil à la suite d'usage de cet armement-là. Et puis, depuis quelques mois, non pas que ce soit quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des débats sur le maintien de l'ordre. Par exemple, en 1986, lorsqu'il y a eu les manifestations étudiantes et la mort de Malik Houssekine, et je ne parle même pas d'époques plus anciennes, dans l'après-deuxième guerre mondiale, ou dans le contexte avec la répression de certains mouvements ouvriers, ou tout ce qui a touché à la guerre d'Algérie. Donc, tout ceci pour dire qu'on reproche à la police française de ne pas être capable de communiquer avec les manifestants comme peut le faire la police britannique ou peut le faire la police allemande. Et on lui reproche aussi, et ben justement, l'usage d'un certain nombre d'outils, LBD-40, grenades de désencerclement, qui ont été proscrits, ou en tout cas très très sérieusement limités, dans d'autres pays.
Alors qu'en France, si on prend les chiffres en 2018, l'usage des LBD et des grenades de désencerclement a augmenté de 200%, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Il y a sans doute un problème de gestion des conflits et de gestion des tensions du côté de la police, mais il est aussi incontestable qu'elle a eu affaire depuis un an et demi à une partie, certes extrêmement minoritaire, mais une partie significative quand même, de manifestants, ou en tout cas de groupuscules violents qui sont là pour la confrontation. Et puis un petit peu un discours qui s'est instauré dans une partie de la profession, je ne généralise absolument pas, mais dans une partie de la profession, consistant à dire, on est dans une situation qui est quasi insurrectionnelle, où on est exposé au danger, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire que les personnes qui manifestent et qui s'en prennent à nous, on leur donne la monnaie de leur pièce, en fait. On leur rend la monnaie de leur pièce.
Et le gouvernement ne contredit pas cette version-là. En gros, si vous manifestez, c'est à vos risques et périls.
Oui, alors, bon, il y a une petite inflexion quand même dernièrement dans le discours gouvernemental. C'est vrai que pendant plus d'une année, le discours du gouvernement, et en particulier du ministre de l'Intérieur, a été extrêmement protecteur à l'égard des forces de l'ordre.
Mais je voudrais quand même dire que les violences ne sont pas le fait des policiers ou des gendarmes. On n'est pas dans un combat entre deux bandes qui s'affronteraient tous les samedis. Il y a ceux qui sont légitimes à défendre la République, à utiliser la force. Il y a ceux qui ne le sont pas.
Et c'est aussi pour ça qu'on a pris ce virage à peu près au printemps 2019, avec en particulier le changement de préfet de police à Paris, vers un maintien de l'ordre qui est extrêmement offensif. C'est-à-dire qu'on demande aux policiers d'aller vraiment au contact des manifestants et plus spécifiquement des éléments violents pour aller faire des interpellations. Ce qui, historiquement, n'était pas vraiment la doctrine de la police française en la matière, où on était plutôt dans le maintien à distance.
Et là, on se retrouve avec des policiers qui prennent finalement les manifestants pour des ennemis.
Oui, il y a une polarisation extrêmement forte. Sans doute que les discours politiques y ont contribué. Sans doute que un préfet de police qui dit à une manifestante qui essaie de dialoguer avec lui...
Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune.
Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Et puis la répétition, encore une fois, d'opérations de maintien de l'ordre, la répétition d'interactions tendues, voire violentes, fait que, et c'est humain, vous avez une polarisation très forte. Il y a une mentalité de eux contre nous, seuls contre tous. C'est-à-dire que finalement, on est la dernière ligne de défense de la République face en fait à des éléments insurrectionnels.
Vous savez, quand j'ai eu le préfet de police qui, à 18h, me dit « Monsieur le ministre, la situation est terrible », il y a forcément une inquiétude.
On dirait de l'intérieur de l'Arc de Triomphe, on est là. Moi, à l'aise, à l'aise. Marie est magique. On va faire sauter Macron. L'Arc de Triomphe.
Et là, vous donnez des instructions pour dire il faut tenir. Et il a tenu. Et il faut reconquérir. Et il a fait en sorte que l'on puisse reconquérir l'Arc de Triomphe qui avait été prise par des manifestants et qui avait tout cassé.
Juliette, vous avez 30 ans.
Oui.
Vous êtes gardienne de la paix à Paris. Et vous venez de publier un livre, « Vie ma vie de flic » sous le nom de Juliette Alpha, aux éditions Hugo et Si. Vous racontez ce que vous avez vécu le samedi 1er décembre 2018, jour de manifestation des Gilets jaunes, qui a dégénéré à Paris avec le saccage de l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que vous avez vécu ce jour-là ?
Tout se mélangeait un petit peu, que ce soit de la peur, de l'appréhension, de l'adrénaline aussi, parce que mine de rien, on était sur un terrain qui ressemblait plus à un champ de bataille qu'à un champ de manifestation. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des exactions qui étaient commises, des violences, des dégradations, des collègues qui se faisaient prendre à partie au sol, voire passer à tabac. Quand vous entendez vos collègues sur les ondes hurler, mais c'était le terme, hurler, renfort, renfort, collègue au sol, ils sont en train de nous lyncher. Ça le vous glace, clairement.
Ce jour-là, vous étiez en renfort dans une BAC, dans une brigade anticriminalité. Mais vous, à la base, vous êtes de police secours, c'est ça ?
Tout à fait. Vous aviez toutes les BAC de Paris qui étaient présentes, donc environ 70 collègues. Et on s'est retrouvés encerclés par environ 500 Black Blocs. Je crois que c'était sur la place Saint-Philippe-du-Roule. Ils sont arrivés de toutes parts, par toutes les voies. Et on s'est retrouvés encerclés et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous avez des collègues qui ont 25 ans de bouteille, qui vous disent droit dans les yeux, j'ai jamais vu ça, et qui sont désemparés, en fait, de par la violence qu'ils sont en train de voir, et ça vous fait réfléchir. Je me suis dit, il y a un tournant qui est en train de se passer.
Quel regard vous portez sur les manifestants blessés ? Il y en a eu un certain nombre parmi les Gilets jaunes, et les faits nombre interpellent.
Clairement, quand on est policier, on ne rentre pas dans la police pour blesser des gens. On rentre pour protéger et servir. Donc tout manifestant blessé, c'est un manifestant de trop. On se dit, mais c'est du gâchis. C'est juste du gâchis, en fait. Parce que vous avez des manifestants qui se retrouvent blessés parce qu'ils viennent défendre une cause, ils viennent s'exprimer. Nous, on est sur place parce que notre rôle, c'est de les encadrer pour qu'ils puissent manifester en sécurité. Et au final, des deux côtés, vous avez des blessés. Le problème, c'est que vous avez des éléments extérieurs qui viennent gangréner les mouvements, qui viennent attiser la haine, qui viennent attiser la violence, qui viennent commettre des exactions. Et par effet boule de neige, vous avez des manifestants qui parfois peuvent être excédés, je pense, qui peuvent être en colère, très en colère, et qui se retrouvent entraînés là-dedans et qui rejoignent ce mouvement de violence par effet boule de neige. Et du coup, qui se retrouvent parfois blessés par les forces de l'ordre, de manière légitime ou pas, ça c'est la justice qui le déterminera. Mais dans tous les cas, ça reste du gâchis.
Parmi les manifestants blessés, il n'y a pas que des Black Blocs, il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui venait manifester en famille de manière tout à fait pacifique. On a vu des tirs quand même de lanceurs de balles de défense très près, voire de dos.
Je pense qu'il est difficile de nier qu'il y a des violences légitimes commises par les forces de l'ordre. Force est de constater qu'il ne s'agit que d'un infime pourcentage. Malheureusement, ça reste trop, On aimerait que ce soit du 100% de réussite. Le problème, c'est que vous avez des humains derrière l'uniforme et que quand ils sont employés depuis plus d'un an et demi, tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine, parce qu'en ce moment, vous avez des manifestations 2 à 3 fois par semaine, qui n'ont pas de repos, qui ne voient pas leur famille. Je pense qu'au bout d'un moment, tout être humain a les nerfs qui lâchent et peut commettre un geste qu'il regrettera dans la seconde. Parce que c'est ça qui va se passer, c'est que dans la seconde qui suit, je suis persuadée que le collègue, il se dit « Merde, j'ai fait une connerie ».
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV entrera en gare de Dunkerque sur terminus.
Nous venons d'arriver à Dunkerque et nous avons rendez-vous avec un autre CRS. Il est moniteur en maintien de l'ordre et lui aussi souhaite rester anonyme.
Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 45 ans et je rentre dans ma 16e année dans le corps de CRS et dans ma 24e année au corps de la police nationale.
Qu'est-ce que vous faites exactement chez les CRS ?
J'ai le grade de brigadier chef et je suis en gros moniteur dans le cadre du maintien de l'ordre. On est là pour faire la formation continue de nos collègues en matière de maintien de l'ordre.
Est-ce que vous avez vu des choses chez certains de vos collègues qui vous ont choqué ?
J'ai vu des choses, des moments de ras-le-bol, parce qu'on subit pendant des heures et à un moment donné, on perd la part de lucidité qui fait qu'on est un professionnel du maintien de l'ordre. Et quand on est plus lucide, on est amené à faire des erreurs.
Ça vous est arrivé, vous ?
Ah oui, ça m'est arrivé. Je reconnais, je le dis ouvertement. Ça m'est arrivé de que l'homme parle avant le fonctionnaire. C'était un individu qui nous harcelait avec des pierres, un individu qui venait au contact à chaque fois qu'on faisait une manœuvre et qui nous faisait la petite taquinerie. Mais au bout de 3 heures, la taquinerie, quand vous êtes le nez dans l'action, malheureusement, on ne voit que ça et on est dans un tunnel et on ne voit que lui.
Vous avez réagi comment ?
J'ai la chance d'avoir d'autres collègues qui font que quand on est dans sa spirale, on a toujours un collègue ou un chef qui nous reprend, qui nous recadre, qui me dit « Bon, là, t'as tes conneries et maintenant, tu fais ce que je te dis. » Dans notre corps, on est tenu de ne pas parler. Si vous parlez à quelqu'un, vous échangez une idée, les idées sont parfois opposées et ça va engendrer une tension. Et cette tension peut engendrer une tension physique. Donc le but, c'est de ne pas parler. Et le fait de ne pas parler, vous avez en face des gens pendant 2 heures qui vous traitent de tous les noms. Et voilà, à un moment donné, ça peut... Voilà. C'est pour ça que il y a une loi entre nous. La compagnie qui subit, ce n'est pas la compagnie qui donne. C'est-à-dire qu'on, en tout cas, on ne va pas laisser une unité qui a subi pendant 3 heures des colibés et des jets de projectiles, et c'est pas elle qui va donner la dissipation. Justement pour éviter que ce genre de tension monte. Donc on devrait, si on pouvait, dans un monde idéaliste, dans lequel on aurait des forces mobiles suffisantes, que la compagnie soit remplacée par une compagnie fraîche, qui n'a aucune interaction avec les manifestants, et la manif serait entre guillemets dispersée plus sereinement.
Interception sur France Inter.
Au-delà des situations de crise engendrées par des manifestations parfois violentes, il existe une véritable interrogation sur les techniques d'interpellation à la française. C'est au cours d'un simple contrôle routier que Cédric Chouvia, un livreur de 42 ans, a trouvé la mort à Paris en janvier dernier. Pour l'interpeller, les policiers avaient utilisé la technique d'immobilisation dite du plaquage ventral, interdite dans certains pays comparables aux nôtres.
Putain, ils sont à 4 sur un mec.
Une vidéo amateur de l'interpellation a permis l'ouverture d'une enquête. C'est avec son épouse Doria que Géraldine Allot a rendez-vous.
Doria Chouvia, bonjour.
Bonjour Géraldine.
À la suite de l'arrêt cardiaque dont a été victime votre mari, un juge d'instruction a été saisi, une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. L'autopsie a montré que votre mari était décédé d'une fracture du larynx et d'une asphyxie.
Oui, malheureusement. Alors, comme je le dis souvent, j'ai un problème avec l'homicide involontaire, parce que là, il y a vraiment des violences aggravées. Peut-être pas, effectivement, avec l'intention de donner la mort, mais cependant, c'est quand même la conséquence grave, en fait, de ce drame. Et quand je vois la vidéo qui me terrorise, je vois un policier qui perd son humanité et qui laisse sa colère et tout ce qui est mauvais en fait prendre le dessus sur son éthique, sur son devoir, sur son travail surtout. Donc homicide involontaire pour l'instant, ouais, c'est comme ça et j'espère que ça va changer.
Sur la vidéo dont vous parliez, vidéo amateur, on voit deux policiers qui maintiennent votre mari au sol, qui font pression sur son corps, et un troisième qui a son bras autour de son cou. Vous avez réussi à la regarder, cette vidéo ?
Oui, je l'ai regardée. C'est une vidéo qui me fait beaucoup de mal, parce que quand je la regarde, je vois mon mari, un père de famille, qui a peur, qui essaye de se débattre, et qui a envie de vivre, et qui souffre. Et je vois leur sauvagerie, parce qu'une fracture du larynx, c'est pas rien. Quand je vois cette vidéo, pour moi, c'est une scène de crime, en fait. C'est la vidéo, c'est la scène où est-ce qu'on est en train de tuer mon époux, malheureusement.
Comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Je ne sais pas trop, en fait. Je ne réalise pas vraiment encore ce qui nous arrive. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, je ne me pose pas trop de questions. J'essaye déjà de réaliser. C'est un grand, grand gâchis. Et voilà, en tant que père de 5 enfants, il avait encore à faire.
J'en profite, j'ai l'imam qui est à mes côtés. Je vais en profiter pour lui demander de faire quelques invocations pour mon époux, parce qu'il ne nous reste plus que les prières et la justice.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa lanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi.
Nous avons maintenant rendez-vous au siège de l'association ACAT.
Je suis Marion Guémas et je suis responsable police, justice et privation de liberté à l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
Dans son rapport publié en 2016, l'ACAT estimait que la technique du plaquage ventral était responsable de 8 décès depuis 2005.
Le plaquage ventral, c'est une technique qui consiste à immobiliser au sol, donc avec le ventre sur le par terre, une personne, notamment en particulier dans le cadre d'une interpellation, pour la menotter. Cette position est maintenue pendant de longues minutes et qui crée en fait des difficultés respiratoires pouvant conduire à la mort.
Cette technique du plaquage ventral a été interdite dans de nombreux pays.
Effectivement, on a des informations sur la Belgique et la Suisse qui ont interdit ces techniques, notamment après des expulsions d'étrangers qui se sont mal passées et qui ont conduit donc au décès de ces personnes. La ville de New York aussi, la ville de Los Angeles, même si on sait bien évidemment que l'interdiction, ça suffit pas forcément à empêcher les décès, puisqu'une pratique peut être interdite et malgré tout utilisée par les forces de l'ordre. Et on sait notamment qu'à New York, malgré l'interdiction, il y a toujours des cas qui sont dénoncés.
Outre ces techniques d'interpellation qui peuvent blesser, voire même tuer, il y a la question du maintien de l'ordre. Pendant les manifestations des Gilets jaunes, puis ensuite pendant les manifestations contre la réforme des retraites, de nombreuses personnes ont été blessées par la police. Est-ce que vous avez documenté ce phénomène également ?
On essaye effectivement de documenter ces cas de violence, mais pour être honnête, on en vient à avoir tellement de personnes blessées qu'on ne sait plus comment compter. Est-ce qu'on prend que les personnes qui sont mutilées à titre permanent ? Est-ce qu'on prend des personnes qui sont grièvement blessées ? Enfin, on ne sait même plus comment compter tellement il y en a. Et donc pour nous, il y a un vrai problème à ce niveau-là, effectivement. On ne dit pas qu'il faut absolument désarmer les forces de l'ordre. On sait bien qu'elles peuvent être victimes de violences, etc. Ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir des armes qui sont moins dangereuses que celles qu'on a aujourd'hui, et surtout dans quelle mesure finalement les armes qu'on utilise créent aussi de la violence. C'est-à-dire que si on parle des gaz lacrymogènes par exemple, certains pays refusent de les utiliser.
Comme qui ?
On a notamment en Angleterre ou en Belgique pour qui vraiment utiliser des gaz lacrymogènes c'est l'ultime recours. Ce qui est assez évident, c'est que le gaz lacrymogène il touche indifféremment toutes les personnes qui sont présentes, y compris celles qui n'ont rien fait, y compris quelqu'un qui passe. Enfin, c'est pas forcément celui qui a jeté un caillou qui va être touché par ce gaz lacrymogène. Et donc en utilisant ce type d'arme, on a un risque, c'est de rendre violents des gens qui n'étaient pas initialement, mais qui vont se sentir injustement attaqués par les forces de l'ordre et qui donc du coup peuvent basculer dans la violence. Cette violence, du coup, en réaction, va entraîner une plus grande violence des forces de l'ordre parce qu'ils doivent répondre à ça, et on est finalement dans une espèce de cercle de vicieux. C'est pour ça que nous, on est convaincus qu'il faut vraiment mener une réflexion sur les armes qui sont mises à disposition par les forces de l'ordre et qui, pour certaines, créent plus de violence qu'elles ne la suppriment. Quand on regarde ce qui se passe par exemple en Angleterre, en Allemagne, où il y a aussi des manifestations violentes, reste que les forces de l'ordre, elles refusent même le canon à eau.
Comment alors dans ces pays-là, les forces de l'ordre ?
C'est des pays qui ont aussi beaucoup investi sur les dialogues. Enfin, le dialogue, la communication, et donc dans des unités qui sont sur le terrain et qui communiquent avec les manifestants. Quand quelqu'un est interpellé, ces unités de dialogue, elles vont expliquer aux gens pourquoi ce monsieur il a été interpellé, parce que peut-être que 2 heures avant, il a fait quelque chose d'illégal. Mais il y a une explication. Ils investissent dans des panneaux lumineux, par exemple, pour expliquer dans quel sens il faut aller, est-ce qu'il faut se disperser, etc. Aujourd'hui, nous, on fait pas ça. On impose de la force sans expliquer pourquoi. Et donc forcément, ça se passe pas bien. Et je pense que le changement, il peut venir que de la part des autorités. Enfin, on ne peut pas renvoyer dos à dos uniquement forces de l'ordre et manifestants. Il faut qu'il y ait un choix politique de dire « ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne mieux ?»
Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, devant un grand bâtiment rouge, moderne, en partie vitré. C'est le siège de l'IGPN, la police des polices. Brigitte Julien, vous êtes directrice de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, c'est ce qu'on appelle la police des polices. Depuis le début des manifestations des Gilets jaunes et des manifestations contre la réforme des retraites, combien d'enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre des policiers ?
Ce sont 381 enquêtes qui ont été ouvertes, pas contre des policiers, mais sur plaintes déposées par des personnes qui se disent victimes d'actes de violence. Les suites de ces enquêtes, pour l'instant, sont pas encore toutes connues. On en a renvoyé 260 qui ont été transmises à l'autorité judiciaire. Pour l'instant, on a eu 2 condamnations devant le tribunal qui ont été médiatisées. Et on attend le retour des procureurs de la République. Je crois qu'on a à peu près 63 classements qui nous ont été annoncés sur ces 260 enquêtes judiciaires transmises.
On va vous faire réagir à ce qu'on a entendu dans ce reportage. D'abord sur le LBD, le lanceur de balles de défense. Il a provoqué de nombreuses blessures graves et même des policiers disent qu'il peut, le LBD, être imprécis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Forcément, on ne peut que conclure que l'usage du LBD peut entraîner des blessures graves, puisqu'on l'a vu. On a quand même quelques enquêtes sur lesquelles on a des blessures graves qui ont été décelées. Imprécis, certainement, parce que il faut prendre en compte le mouvement de la foule, le mouvement du policier. Il faut prendre en compte la météo, parce qu'on a aussi des projectiles qui ont une puissance et puis une vitesse différente en fonction de la météo. Je pense que de toute façon, après ce mouvement, on n'évitera pas une grosse réflexion sur l'usage du LBD. Il faudra qu'on puisse travailler avec toutes les affaires judiciaires sur lesquelles nous avons eu des éléments, sur les techniques d'intervention, et je pense que l'IGPN peut être effectivement force de proposition.
Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi certaines techniques d'interpellation ? On pense notamment au plaquage ventral. On a entendu un petit peu plus tôt dans ce reportage la veuve de Cédric Chouvia. C'est l'IGPN qui mène l'enquête sur son décès. Quelle est votre position ?
Ce qui est arrivé à M. Chouvia ne devrait pas arriver. On ne peut pas penser qu'une interpellation par des policiers se termine par un décès. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut véritablement que l'on réfléchisse aux techniques d'intervention dans le domaine de la police nationale. Et c'est ce que fait le directeur général de la police nationale aujourd'hui, sur demande du ministre de l'Intérieur. Un groupe de travail a été créé entre les formateurs, l'inspection générale, les techniques, les spécialistes de cette technique, pour pouvoir faire des propositions.
Au sein même de la police, de plus en plus de voix militent pour une désescalade dans les relations avec la population. La CPJ, l'Agora des citoyens, de la police et de la justice, s'est créée il y a 18 mois. Ce collectif regroupe des policiers, des magistrats et des citoyens. Stéphane, un policier de terrain, en fait partie.
Les autorités du ministère de l'Intérieur ont récemment rappelé un certain nombre de principes sur la déontologie, sur l'usage de la force, sur le comportement des policiers sur la voie publique. Ça s'est fait relativement tardivement et après des mois de messages quelquefois simpliste, des raccourcis, l'image qui était donnée, c'était le méchant casseur contre les policiers qui font ce qu'ils peuvent pour, bon, c'est une réalité. On a des collègues qui ont été blessés, sérieusement blessés en service, mais On ne peut pas faire l'économie de s'interroger sur un certain nombre de blessures dans, j'allais dire, dans le camp, pour reprendre une triste expression, mais il n'y a pas de camp en République, du côté des manifestants, pour le coup, pacifiques, et on ne peut pas faire l'économie d'une interrogation, de se dire comment on peut aujourd'hui parvenir à reprendre un terrain sans que ce type de choses arrive. Peut-être s'interroger sur le fait de savoir si on revient à une priorisation de la protection des personnes contre les biens, c'est-à-dire que il y a des époques où la puissance publique a accepté, par exemple, que on puisse protéger des manifestants pacifiques au prix quelquefois de casses qui sont toujours regrettables, qui sont condamnables, et dans la mesure du possible, il faut en interpeller les auteurs et les présenter à la justice. Mais la priorité doit rester la protection des personnes. Voilà, c'est une vision. Peut-être plus apaisée et plus ouverte vers la désescalade de l'usage de la force.
J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie.
Police, l'inévitable remise en question. C'était un reportage de Géraldine Allot avec Raymond Albouy et Marc Garvenès à la prise de son, disponible sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage Manuel Couturier. La semaine prochaine, 11 mois après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, nous partirons avec Christine Siméon dans le monde des ouvriers qui restaurent et parfois reconstruisent les monuments de notre patrimoine.